Heures sur l'onde rock.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago qui démarre chaque samedi sur deux, chaque quinzaine. Samedi 15 décembre, c'est numéro 903 de Sweet Home Chicago avec toujours le disque du mois, l'album Hope de Mantelman, dont on vient d'écouter un extrait, une reprise bien sûr de Nirvana, Smells Like Teen Spirit. On aura 3 ou 4 extraits au cours de cette 903e aventure de Sweet Home Chicago qui dure depuis février 1992. On est ensemble jusqu'à 16h et au programme de ce 903e numéro, il y aura vers 13h30 Beauty and the Beast en interview, Roxane et Michel qui nous diront tout et le reste sur leur victoire au Tremplin Blues sur scène le mois dernier et puis bien sûr leur vie, leur œuvre, leur projet, leur avenir. Beauty and the Beast, un groupe que vous connaissez dans l'émission depuis quelques mois seulement et puis peut-être pour certains du moins les amateurs de scène parisienne parce que c'est de là qu'ils viennent depuis un tout petit peu plus longtemps. Enfin, c'est un groupe qui reste relativement récent au niveau de sa formation. l'émission. Voilà, donc à partir de 13h30, interview. En attendant, je vous ai calé quelques petites nouveautés. Jersey Julie, il y aura Tim Lothar qu'on a écouté déjà une fois. Et puis cette nouveauté en anglais qui habite en Scandinavie, qui s'appelle LR Phoenix, l'album Blues Rules Underground Blues, enregistré au Blues Rules Christier Festival. LR Phoenix, qu'on va écouter tout de suite avec Hollow Log. Descendu de quelques degrés hein, au niveau température, c'est du live quand même hein, mais c'est vrai qu'en solo, voilà, ça peut donner ça aussi. Monsieur Tim Lothar, extrait de son album Stories 25 Places, ça nous vient du Danemark. Ah, j'espère que tout le monde va bien. On démarre très très cool, très acoustique, et puis il y aura quelques petites choses bien sympas et puis des nouveautés comme d'habitude en Sweet Home Chicago.
Two boxes of glass, please have. If I had a dime for everything I broke, I'd be a millionaire. Before.
Voilà, tout simplement, ça s'appelle du blues aussi. Le Tim Lothar, l'album Stories, dont on vient d'écouter 25 Places. On continue avec un artiste qu'on a découvert ou redécouvert il y a peu de temps dans Sweet Home Chicago en interview. Encore merci à toi, Tomcat Blake, extrait toujours de son album Till I Get Back Home. Je rappelle que deux d'entre vous ont remporté l'album. Et puis, il y a toujours pas mal de cadeaux, hein, qui ont, comme des revues, comme des disques, des places de concert, ça va revenir. Sur le site internet de l'émission, blues.radio666.com. Tomcat Blake, le titre c'est Nobody Else. Et juste après, je vous parlerai de la presse blues trimestrielle.
Thank you.
Cat Blake, extrait de l'album Till I Get Back Home. Et puis on va revenir sur quelques petites nouveautés qui sont passées à travers. C'est vrai que pendant les semaines, les mois qui ont précédé, il y a certains disques, je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas été diffusés. Il y a eu d'autres choses peut-être plus urgentes, plus importantes, j'en sais rien. En tout cas, ce Jeff Zima, c'est pas juste parce que c'est un double album qui est très fort bien réalisé. En plus, il y a Fred Douglas à la contrebasse, Didier Brassac à la batterie et puis Jersey Julie au sax alto sur pas mal de titres. C'est un double album qui contient pas loin de 2 heures de musique live à la javanaise et puis Ragged But Right. Je vous propose un extrait de ce deuxième album, donc de Jeff Zima. Un titre en français, ça s'appelle Le vin qui m'émeut, prêtez bien l'oreille.
Charpenté, qu'on sent bien le goût du terroir. D'autres la préfèrent plus équilibrée, mais pour moi il est facile de voir. Du vin fond du Fitou, au pays de la Loire, il y a bon nombre de vins fort plaisants à boire. Mais le vin qui m'aime et me met en joie, c'est le bon vin rouge gaillacois. Je dis, il fait sauter mes papilles de joie.
Voilà, un seul couplet, il fallait attendre. Effectivement, ça se termine comme ça, un petit rag sympa de monsieur Jeff Zima. Voilà, acheter du gaillacois, c'est pas un mauvais vin non plus. On va revenir sur cet album, mais cette fois-ci version live avec tout le reste du groupe.
Ok, on a encore deux chansons.
Ah ben même une, là, on y va. Boop, Geek, Crazy, c'est parti.
L'autre, il va falloir le dire après la prochaine chanson. Hein?
Jeff Zima.
It's all right.
you crazy, it's alright with me. And I know my baby doing me wrong, stares out jitterbugging all night long. Love that boogie woogie, crazy about that boogie. She's looking crazy, it won't let me be.
C'est du live et du bon. C'est Jeff Zima avec au sax Miss Julie Jersey Julie, qu'on va écouter dans son album à elle qui s'appelle Goosebumps, qui est gorgé de blues, gorgé de country, gorgé de rock and roll. Jersey Julie avec cette reprise de Sun House qui s'appelle Grinning in Your Face.
Don't
va bien. Première demi-heure de Sweet Home Chicago, numéro 903. Dernière émission avant la fin du monde. Vous le savez, hein, 21 décembre, c'est mort. Mais le 29 décembre, on va se retrouver, bien sûr, puisque c'est comme un samedi sur deux, Sweet Home Chicago, de 13h à 16h maintenant. Hein. Je vous rappelle que tout à l'heure, après le morceau qui suit, on aura Michel Guzel et Roxane Arnal au téléphone, les deux membres du groupe Beauty and the Beast, pour une petite interview, comme ça, en direct. Et puis, je me proposais quand même de vous parler dès maintenant de la presse blues. Vous savez qu'il y a 3 ou 4 magazines qui sont déjà sortis. Alors ça y est, Blues Alive 76, il est sur la toile depuis ce matin. On peut le télécharger gratuitement en format PDF depuis le site internet de la radio et de l'émission, pardon, blues.radio666.com toujours. Blues Magazine numéro 67 vient de sortir avec Blues Caravan en couverture. 3 jolies jeunes filles dont je vous demande tout simplement de me trouver le nom de celle qui se trouve au centre. Tout ça pour regagner l'un des 2 exemplaires offerts. Blues Magazine avec entre autres Warren Hines, Eric Thiévon, notre ami Jean Guillermo, Sophie, The String Breakers, une saga sur Billy Lee Riley et puis un dossier sur la relève parmi les guitaristes de blues. Voilà, et puis pas mal de compte-rendus de concerts et de chroniques d'albums. Et puis bien sûr, comme à l'habitude, à chaque page 96, le Surfing Blues de Jean-Marc Pochot qui s'est penché cette fois-ci sur le collectif des radios blues, entre autres. Voilà, Blues Magazine numéro 67. Il y a également Soulbag qui vient de sortir hier, numéro 209, avec Nina Simone en couverture. Nina Simone est droit civique. On y parle également de Bobby Rush. Il y a une très très belle interview de Bobby Rush. Larry Graham, Gary Clark Jr., Révérend Johnny Wilkins, Cody Chestnut, Manhattan Street Band, Malaco, Philippe Granchet, les E-Bones et Marshall Deocello. Voilà. Et puis vous trouvez 180 chroniques de CD, de livres et de DVD dans ce numéro 209 de Soulbag. Et puis également dans le BCR, la revue qui vient de sortir, c'est numéro 31 avec une double couverture. Vous choisissez entre Albright et Nick Curran. On y parle également de Hobo Blues, de la Soul Blues Family. Et puis il y a également un dossier Voodoo et Hoodoo et un portrait de Alvin Lee, légende vivante. Alvin Lee, bien sûr, ancien guitariste et chanteur du mythique 10 Years After. Peut-être que la prochaine fois, j'aurai l'occasion de vous parler des 2 autres magazines qui ne sont pas encore sortis, à savoir Blues & Co. et ABS Magazine. On poursuit avec Beauty and the Beast. I want you to be no slave. I don't want you to walk away. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Love, I don't want to give your indulge. There is nothing for you to do but keep me, make you want love to you. Oh, oh, love to you. And I can tell I can't. Le duo Beauty and the Beast, donc ici dans Sweet Home Chicago. Je suis au téléphone avec les deux, avec Michel, avec Roxane. Bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est bon.
Excellente réponse collégiale. Oui, on vous entend très bien. Roxane, comment ça va?
Ça va et vous?
Oui, très bien, merci. Michel est là.
Écoute, ça baigne, tout va bien.
Alors, Beauty and the Beast, c'est une aventure 2012 ou c'est une formation qui remonte un petit peu plus longtemps? Dites-moi.
Bah, c'est une formation qui remonte un petit peu plus longtemps. C'est une formation qui a environ 2 ans, quoi.
Oui, et donc depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis la création du groupe? Et surtout, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, dites-moi?
Ah bon, on s'est rencontrés, en fait, ça a commencé dans un stage de guitare où j'étais professeur avec Chris Lancry, qui est un bluesman français, qui fait du blues acoustique. Et donc avec Chris, on a vu une petite nana toute blondinette qui avait à l'époque, elle avait une quinzaine d'années. Mmh. Et puis tous les soirs, on faisait des apéros-concerts. L'apéro, c'est super important dans les stages de musique, hein, c'est bien connu.
Oui, dans apéro-concert, il y a apéro, effectivement.
Ah, il y a apéro, mais il y a aussi concert. Et alors, donc, comme elle ne prenait pas d'apéro, elle est montée sur scène. Et, et elle a commencé à jouer. Et alors là, toute l'assistance, on était une trentaine de personnes. Et on est resté carrément sur le cul, parce que bon, elle avait une bonne voix. Et surtout, elle jouait très bien de la guitare. Et du haut de ses 15 ans, elle était en train de diriger tout son petit monde à coups de manche de guitare. Enfin, pas sur la tronche, hein, mais elle faisait bien les signes aux musiciens. On se disait, putain, quelle maturité, tout ça.
D'accord.
Voilà, c'est comme ça qu'on a repéré la Beauty, qui peut être aussi The Beast par moment.
Alors ça, oui, ça va être du... ça, c'est peut-être de l'ordre du privé. Je ne sais pas, Michel. Je pense un petit peu. Non, quand je vois Beauty and The Beast...
J'ai pas pour batailler un peu pendant les répétitions, quoi.
Nous, on a reconnu The Beast tout de suite. Pour Beauty, bon, on se posait un petit peu la question, mais ça y est, on a la réponse maintenant, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous produire ensemble? Parce que là, c'était dans le cadre d'un meuf. Et ensuite, comment est-ce qu'on crée un duo comme ça de toutes pièces?
Bah, on ne crée pas un duo comme ça de toutes pièces. En fait, elle est venue une première fois au stage, et l'année d'après, elle est revenue. Et c'est au cours de ce deuxième stage qu'on s'est mis à chanter ensemble. Et puis comme nos deux voix allaient super bien ensemble, on s'est dit, putain, mais on peut pas passer à côté d'une telle chance, on va faire un duo.
D'accord.
Voilà, et en fait, au niveau musicalement, on s'entendait super bien. Et donc, on a commencé à monter un répertoire, mais extrêmement rapidement, tu vois. On a eu plein d'idées, et ça collait parfaitement bien. Là, on a eu tous les deux des idées d'arrangement sur les voix, sur les guitares. Et on est tous les deux multi-instrumentistes. C'est un peu ce qui a décidé le fait de faire un duo, quoi.
Et donc, au départ, avec un répertoire, tu l'as dit, des choses rapides à monter, ça veut dire au départ, bien sûr, j'imagine, des reprises.
Bah oui, en fait, au départ, c'était essentiellement des reprises.
Jusqu'à il n'y a pas longtemps,
oui. Parce qu'en fait, on a commencé assez tôt à écrire des chansons, mais on ne les a pas encore vraiment chantées sur scène, à part deux ou trois titres. Donc au départ, c'était des reprises qui naviguaient entre le swing... la pop et le blues.
Et le jazz aussi un petit peu quand même.
Jazz un peu, ouais, swing jazz, tu vois, c'est un peu dans le même esprit. Mmh. Bon, tout ça, c'est affilié dans les morceaux qu'on choisit, c'est toujours un peu affilié au blues, évidemment, puisque c'est une musique d'où on vient. Mais comme on s'intéresse à pas mal de styles différents, on mélange un peu tout, quoi. Et c'est les orchestrations qu'on fait qui font le lien entre les différents styles.
D'accord. Et donc, multi-instrumentiste tous les deux, je crois. Enfin, déjà, on peut parler. Roxane, toi, tu joues à peu près tous les instruments à cordes qui existent, ou peut-être même d'autres encore, d'ailleurs.
Ouais, disons qu'en fait, à la base, je jouais piano-guitare.
Oui.
Et à la formation du groupe, Michel, il m'a dit, tiens, prends la contrebasse et démerde-toi.
D'accord.
Donc voilà, ça s'est fait en fait de fil en aiguille, au fur et à mesure des morceaux. On me dit, ah, tiens, j'aurais bien une mando dessus, donc... je prends la mando, il monte 2-3 accords et puis voilà, ça se fait tout seul en fait.
Donc ça veut dire qu'on utilise l'outil quand on en a besoin en fait, l'instrument c'est un vecteur, c'est un instrument quelque part, un instrument, si on réfléchit bien, c'est un vecteur d'émotion, c'est un vecteur d'âme et c'est pas forcément beaucoup de techniques à apprendre au départ. Est-ce que n'importe qui peut se mettre à la contrebasse comme ça quand on a 17 ans, 16 ans, c'est limite illégal votre truc là quand même. Parce que j'ai des gens qui travaillent pendant des années pour avoir un résultat pareil, quoi.
Bah, c'est-à-dire que... Enfin, vas-y, toi, réponds, vas-y.
En fait, à partir du moment qu'on a la musique dans la tête, il suffit de travailler l'instrument plus ou moins.
Oui.
Pour le rendre tel qu'on l'a dans la tête. Après, on n'est jamais satisfait et je suis pas une super contrebassiste, quoi. Enfin,
Enfin, tu commences à bien te démerder, là, c'est bon.
Ouais.
Enfin, disons qu'elle est assez douée quand même. Hein. Bon, pour résumer, quand même, quand on l'a vue à 15 ans, elle avait déjà tout, comment dire, intériorisé tout ce qui est rythmique. Elle avait un feeling terrible, etc. Donc, bon, elle part quand même avec des bases dont on sait d'où ça vient. Voilà. Et puis, je pense qu'elle a raison quand elle dit que quand on a une idée d'un instrument dans la tête et qu'on est que deux et qu'il faut quand même faire le truc sur scène. On se met très vite à apprendre, en vérité.
Oui, c'est la fonction créée l'organe, en fait, en quelque sorte.
Exactement. Ah, ouais. Et ensuite, comme on connaît plein de monde, plein de musiques, on a plein de copains musiciens, et donc à chaque fois qu'on a besoin d'un petit coup de main, on va les voir, dire comment tu fais ça. Et puis on est dans les concerts, on regarde plein de groupes, on dit putain qu'est-ce qu'ils jouent bien tout ça. On va les regarder faire, et puis après on va leur poser des questions. Donc du coup, comme ça, on arrive à progresser assez rapidement, quoi.
Donc voilà, c'est la curiosité, c'est le fait d'aller voir les autres, et puis aussi peut-être, je sais pas si on arrive avec un bagage comme ça à 15 ans, le talent ne suffit pas à lui tout seul, il faut peut-être avoir été bercé par la musique. Roxane, est-ce que tes parents t'ont fait écouter beaucoup de choses ?
Quand j'étais petite, ouais, j'ai été beaucoup influencée par toutes les musiques, on va dire, rock progressif, Pink Floyd, AC/DC, Dire Straits, et tout ça.
Ça s'entend pas du tout dans ce que vous faites tous les deux.
C'est vrai, c'est dingue. Hein, c'est, voilà. Et après, mais comment ça se fait que t'as aimé le blues ?
Eh ben voilà, c'est ça la question. Ouais. Merci, Michel.
Comment on peut aimer le blues, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais.
Ça m'est tombé dessus, en fait, j'ai écouté un morceau de blues et j'étais carrément hypnotisée. Et puis, puisque j'adorais tous ces groupes, donc Pink Floyd et tout ça, c'est un peu la base, on va dire, de leur musique, en fait. Donc, du coup, j'ai été intéressée, j'allais à la médiathèque, j'adorais découvrir, en fait, la musique. Et c'était vraiment le truc, enfin, ça m'est tombé dessus comme si c'était quelque chose de normal, quoi.
Le premier véritable morceau de blues que tu as écouté, Roxane, c'était qui ? Tu te souviens de l'interprète ?
Oui, c'est un morceau de Didi Kale qui s'appelle Lowdown.
D'accord. Et donc après, par la suite, eh ben, il a fallu découvrir tous ces artistes que vous prenez tous les deux. Hein. On vient d'entendre donc un morceau de Willie Dixon. On va écouter tout à l'heure un morceau de Duke Ellington. Voilà, du jazz, du blues, enfin du swing. Ça a été une révélation pour toi, Roxane, ou
Oui, complètement, ouais.
C'est encore en cours, j'imagine. Enfin, voilà, la découverte n'est jamais terminée, bien évidemment, quel que soit l'âge qu'on ait. Mais est-ce que tu as l'occasion comme ça d'aller voir tout ce qui bouge ? Tu choisis pas forcément, tu vas à des concerts au kilomètre, non ?
Oui, bah, je vais voir pas mal de concerts. Après, c'est pas forcément orienté blues. Quand j'ai découvert le blues, j'étais très blues fermé, on va dire. Et puis maintenant, puisque je fais des études un peu musique classique, tout ça, j'écoute un peu vraiment blues, jazz, classique, rock, folk, country, bluegrass. Enfin, j'écoute un peu de tout, en fait.
Voilà, donc beaucoup.
Donc, oui, dès que les occasions viennent, on va voir des concerts, on s'enrichit. Et puis,
On regarde pas mal on va pas mal voir de concerts de groupes pas connus, de jeunes qui démarrent. Enfin, on a été voir Catfish, les Mountain Men, enfin, ils démarrent pas les Mountain Men. Hein,
mais... Non, pas tout à fait.
À chaque fois, quand on regarde ces groupes-là, on se dit putain, qu'est-ce qu'ils sont bons, tout ça. Et il y a toujours quelque chose qui va nous inspirer ou nous pousser à nous améliorer pour arriver à leur niveau, quoi. Donc, et ces groupes-là sont tous, bien influencés par les blues assez roots, en vérité, et du Mississippi blues, un peu de Chicago, un peu de blues de la New Orleans, etc. Et tous ces petits mélanges-là, ça nous inspire pour écrire nos chansons actuelles, en fait.
Voilà, et puis donc, on a dit curiosité d'aller voir les autres. Enfin, moi, je trouve que c'est une question qui revient souvent dans les interviews, mais ça me paraît quand même essentiel. On ne peut pas forcément créer en restant dans son coin. Vous en êtes la preuve vivante du contraire. Et puis, quand on habite à Paris, quelque part, c'est relativement facile d'aller voir du live, quel que soit le style, non ?
Oh bah oui, il y a quand même de quoi faire, hein, mais... Enfin, que ce soit Paris ou la province, hein. Moi, je trouve que par exemple, on a pas mal d'amis qui vivent en province et qui jouent beaucoup. Et donc sur Paris, il y a un large panel de styles et de concerts, mais c'est pas forcément là qu'on aime mieux le jouer, quoi.
D'accord. Bon, bah ça, voilà.
Parce que quand on se déplace, on voit d'autres gens, on a un autre accueil, c'est un peu différent. De toute façon, quel que soit l'endroit où on joue, si on arrive à comment dire, à bien jouer, à bien partager la joie qu'on a de le faire, bon ben pour nous c'est bon quoi, on a rempli notre contrat.
En tout cas, les deux fois où je vous ai vu cette année, c'était pas à Paris, c'était à Mantes-la-Jolie récemment, et puis c'était à Cahors cet été, au festival de Cahors. Vous êtes inscrit pour le tremplin. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement de courir un petit peu les tremplins, de vous produire est-ce que c'est d'abord le souci de vous faire voir hein, par un certain nombre de gens, ou est-ce que c'est aussi la curiosité d'aller de vous frotter un petit peu à la concurrence entre guillemets, puis d'aller voir d'autres artistes, de les côtoyer, de les connaître, de les rencontrer?
En fait, c'est un peu aucun des deux, on va dire. Ouais. Alors, en fait, on jouait juste pour s'amuser dans les petits bars parisiens. Mmh. Et deux bons amis à nous qui jouent dans le groupe Blues Power Band nous ont dit « Mais pourquoi vous inscrivez pas au tremplin ? Faites Cahors, faites Blues sur scène. » Et puis voilà, on a juste envoyé le dossier un peu...
Ouais, comme ça, on a en plus, quoi.
Voilà, on a été sélectionnés, donc on était super contents. Et après, évidemment, on a travaillé pour... se faire connaître, remporter des prix plus ou moins, rencontrer des personnes, des musiciens.
Voilà, Blues Power Band, donc Blues Power Band de l'ami Hervé Joachim, donc dont vous aviez fait la première partie, je crois, au début de l'année. Hein, j'avais vu passer cette date-là.
Oui, on avait fait leur première partie au New Morning.
Voilà. Et puis, donc, ce serait eux qui vous auraient conseillé. Donc, je pense qu'ils sont de très, très bons conseils. C'est vrai que ce qui vous est arrivé à Cahors, c'était sympa. Et ce qui vous est arrivé à Mantes-la-Jolie, c'était inespéré, non?
Ah bah oui, c'est bon, oui, on s'attendait pas trop à ça, parce qu'en fait, déjà, on avait envoyé notre dossier, on disait, bon, si jamais on est sélectionné, bon, ça sera chouette, quoi.
Ouais, ah bah oui.
Donc, alors, et puis après, on est sélectionné, on se dit, oh merde, et tout ça, sinon, on va falloir bosser à fond. Alors, on a bossé comme des bêtes pour préparer la chose.
D'accord.
Mais arrivé là-bas, quand on a vu le niveau des groupes, on s'est dit, bon, on n'a aucune chance, peut-être qu'on va avoir un petit prix, et voilà, quoi. On était super heureux de gagner, quoi.
Non seulement vous avez gagné, mais je crois que c'est une toute première dans l'histoire du tremplin blues sur scène qui existe depuis, je crois que c'était la 13e édition. Vous avez tout raflé, quoi, en fait, c'est ça l'histoire.
Bah oui, mais on s'attendait pas à ça, franchement.
Alors,
disons, on était super contents parce que... Et je pense que c'est le fait de nous voir sur scène, parce qu'on c'est vrai qu'on a une identité visuelle et sonore qui est assez assez marquée.
Oui.
Et je pense que c'est ça qui a fait pencher la balance de notre côté, parce que les groupes qui nous ont précédés, bon, on les trouvait super bien. On était dans le petit escalier à côté de la scène, puis on les regardait, on se dit putain, ils sont trop bons. Alors on se dit oh là 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 là. Et donc on s'est dit bon, nous notre but c'était d'être content de nous à la fin de notre prestation, en se disant
oui voilà, ne rien avoir à regretter en fait, en quelque sorte.
Comment?
Je dis être content de nous, c'est ça, c'est ne rien avoir à regretter, dire de toute façon on a tout donné, donc s'ils veulent pas de nous, c'est pas grave, on peut pas faire mieux. C'était ça le truc.
C'est exactement ça notre esprit quand on est monté sur scène, en fait. C'est-à-dire que on avait bien répété nos trucs, on était content de chanter, et on s'est dit le truc, si on arrive à avoir la joie sur scène et que à la fin on s'est dit putain, on a bien joué, on est super content. On a rempli notre contrat. Après, le reste ne nous appartient pas.
Mmh. Voilà. Et puis, effectivement, alors, c'est quand même un petit peu particulier le fait d'avoir à se produire devant un public, certes, mais devant un jury, où on sait qu'éventuellement, c'est pas comme un public de bar où les gens, ils vous regardent un morceau ou deux, ils vont boire un coup, ils discutent et puis ils font autre chose. Non, là, c'est quand même, on va dire, une trentaine de personnes qui sont strictement attentives à tous vos faits et gestes. Donc, est-ce que ça doit faire un drôle d'effet vu de l'intérieur, non?
Et pour toi, ça fait quoi, toi, Roxy?
Ah, voilà.
Et ben en fait les jurés, puisqu'ils n'étaient pas comme dans les films sur des tables bien éclairées avec des regards fulgurants, ça m'a pas trop intimidée, on va dire. Ils étaient dans la salle comme des spectateurs, donc ils savaient pas trop qui c'était. Donc le plus stressant j'ai trouvé, c'était le fait de s'installer très rapidement.
Oui.
Et d'avoir un temps vraiment bien limité, et surtout que nous avec nos 6 instruments, on est deux, on avait combien, 7 minutes pour s'installer.
Et ça va, le présentateur, il vous a pas trop stressé au départ, Mike, l'ami Mike Lécuyer?
Non,
c'est adorable.
Non, il est super sympa. Donc, sinon, on était un peu en confiance déjà. Quoi, il était vraiment chouette.
Mmh.
Mais c'est vrai que les autres groupes, par exemple, ils étaient 5, ils avaient chacun un instrument.
Oui.
à brancher ses rapides, mais nous on s'est ramenés, on était deux, et on avait une contrebasse, trois guitares, une mandoline, un ukulélé, deux
pédales. Ouais, j'ai entendu ça, bien sûr.
Ouais, on s'est dit, oh là 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 là, on est mal barré, quoi. Heureusement qu'il y a une équipe technique qui était vraiment.
Ce que j'allais dire, il y a une bonne équipe technique. Bon, au niveau de la lumière, c'était pas ça, mais au niveau du son, je dois dire que voilà, nous on avait suivi ça de l'autre côté sur la vidéo, parce que grâce au miracle d'Internet, on a pu vous suivre pendant à peu près toute la prestation. Et puis, puis voilà quoi, en audiovision. Alors c'est pas tout à fait The Voice non plus, hein, le tremplin blues sur scène. Hein, c'est bon, hein, il faut remettre à sa juste proportion. Mais on évoquait tout à l'heure le fait que vous écoutez des choses très diverses, très variées. Est-ce que ça vous ouvrirait pas plutôt des portes pour aller d'autres vers d'autres médias, vers d'autres horizons, avec la découverte de nouveaux publics. Je sais pas, peut-être après la création d'un répertoire un petit peu plus étoffé encore.
Ah bah si, nous on adore le blues, hein, mais on aime bien aussi plein d'autres styles. Alors c'est vrai que c'est à la fois un avantage et un inconvénient, dans le sens où, comment dire, on est un peu des touche-à-tout, mais il faudrait quand même, on est en train, avec nos compositions et nos chansons qu'on est en train d'écrire en ce moment et qu'on est en train de finaliser, on est en train d'affirmer un petit peu plus notre direction musicale.
Donc ça veut dire qu'il faut trouver un juste milieu entre être identifiable et rester original quand même.
Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu la difficulté, c'est un peu la corde raide entre les deux choses, effectivement. Mmh. Et donc, bon, je pense qu'on a réussi à trouver quelque chose qui navigue entre du blues vraiment roots et de la musique pop. Et le mélange des deux est intéressant, donc j'espère que vous allez bientôt l'écouter. Parce que dès qu'on aura évidemment enregistré un album, on va vous l'envoyer.
Voilà.
Donc voilà, on en est à ce niveau-là de notre travail artistique, c'est-à-dire au niveau artistique d'avoir une identité musicale un peu plus marquée que le fait de faire des reprises qui tapent un peu dans tous les râteliers, quoi.
Alors sur ce 6 titres, justement, tu parlais de la création d'albums. Il y a déjà ce disque, hein, qui contient 6 morceaux. On vient d'entendre I Just Wanna Make Love to You. On va écouter tout à l'heure I Don't Mean a Thing. Il y a également une reprise In the Summertime que tout le monde a dans l'oreille. Un traditionnel Wild Bill Jones. Et puis un Blues for Mr. D. Bruce Willis, l'acteur de cinéma. Puis il y a également sur scène un petit clin d'œil que vous faites. C'est pas un secret, hein, vous le faites relativement souvent sur scène. C'est cette reprise de AC/DC qui s'appelle Highway to Hell avec deux instruments de voix. Moi j'ai vu tout le monde se retourner, que ce soit à Cahors ou à Mantes-la-Jolie, je pense que ça a été le cas aussi. Ça surprend quelque part.
C'est peut-être ce morceau, en fait, on l'a chantonné dans la rue et puis paf, j'ai pris la contrebasse et voilà, c'est parti, quoi. Et quand on joue, les gens sont vachement surpris et puis ils sont vachement joyeux, donc ça nous rend heureux. Donc voilà, c'est ça qu'on fait souvent.
Oui, parce que ça, c'est un tube qui date d'environ 33 ans maintenant déjà, 1979. Et puis
c'est Don't Mean a Thing, c'est un truc des années 34-36, un truc comme ça.
Et Don't Mean a Thing, ça fait ça. On en écoute un petit extrait.
D'accord.
It don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, 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 do. It don't mean a thing. All you do is start to sing. Do up, 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 do. It makes no difference if it's with and hard. Well, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Do up, 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 do.
Voilà, extrait de ce titre qui ouvre d'ailleurs le 6 titres de Beauty and the Beast, donc It Don't Mean a Thing, reprise de Duke Ellington, une version presque manouche, j'allais dire, non?
Ah oui, c'est assez proche, ouais. Hein? C'est-à-dire qu'on s'est mis à le travailler comme ça, au départ, on s'est dit, tiens, on va jouer un peu swing, juste pour voir, et puis finalement, on s'est dit, bah tiens, ça sonne pas mal. Mm-hmm. Donc bon, on l'a fait comme ça. En fait, on à chaque fois on teste sur la guitare, sur le ukulélé, on prend, il y a plein d'instruments à la maison là, donc dans ma pièce de musique là, et donc en fait on fait des tests et puis d'un coup on dit tiens, ça sonne bien, allez hop, on y va.
Et oui, et donc voilà, spontanéité, curiosité, talent, bien évidemment, et puis oui, spontanéité, et puis puis joie. Je trouve, voilà, se dégage de vos réponses là, de cette conversation, une espèce de joie, tout simplement, de jouer, de partager. Je me trompe?
Non, pas du tout. Il n'y aurait plus de groupe. En fait, le principe, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Après, s'il n'y a plus ça, bon, la musique, elle sert sans à faire de la musique, mais ça sert plus trop à grand-chose, quoi.
Ouais, c'est-à-dire qu'il faut rester dans une certaine forme d'amateurisme et pas passer pro pour continuer à avoir du plaisir. Peut-être pas quand même.
Ah bah non, pas du tout, parce que quand on est pro, on peut pousser le plaisir encore plus loin.
Bah voilà, quand même.
Faut avoir justement l'esprit pour, c'est-à-dire... si on va voir des groupes qui commencent, etc., ou des groupes confirmés, c'est pour voir comment nous on peut s'améliorer de manière à pouvoir aller encore plus loin dans notre musique.
D'accord.
Donc aller plus loin, ça veut dire s'améliorer techniquement.
Et puis faire évoluer les morceaux aussi, instrumentalement, avec d'autres arrangements, d'autres orchestrations, changer d'instrument comme ça, même en cours de morceau, pourquoi pas.
Oui, non, mais tout à fait, c'est prévu dans les prochaines compos, justement.
D'accord, on va pas tout dévoiler, mais en même temps, le prochain album qui est en gestation, il va sortir quand? En 2013 maintenant, j'imagine.
Bah ouais, en fait là on sait pas trop, hein. Pour nous c'est encore l'inconnu, parce qu'on finalise, on n'a pas encore fini de composer toutes les chansons de l'album.
Et puis faut les roder sur scène peut-être aussi, non?
Comment?
Il faut les roder peut-être sur scène un petit peu avant de les enregistrer, je sais pas, quelle est notre démarche.
Oui, ben justement, oui, c'est ce qu'on fait en fait en ce moment, hein. C'est-à-dire que dès qu'on peut jouer, on fait au moins un set complet de compos à nous, quoi.
D'accord, mais en tout cas, voilà, je pense que les auditeurs pourront se rendre compte de votre talent à travers un nouvel extrait de ce titre tout à l'heure. Quelques dates de concert peut-être à nous proposer pour les amis parisiens et les autres, si tant est que vous produisiez avant Noël maintenant, peut-être pas, si?
Ah, peut-être avant Noël, non. On se produira après.
Ouais.
Mais pour le moment, en fait, on fait pas mal de trucs privés, bizarrement.
Bon, mais c'est des bonnes choses aussi, hein, ça permet... Hein? Ça permet de jouer.
On fait pas mal de fêtes privées, de concerts privés. Et là, en fait, tout de suite, là, on a juste un concert le 26 avril à l'Escale à Sèvres. Mmh. Et après, on passe tout de suite en juillet avec les festivals, notamment le festival du Motor and Blues Festival de Dax,
oui.
Le début juillet.
Mmh.
Et puis en août, on partira au Québec pour jouer.
Bah oui, il est question d'un festi-blues de Montréal, puisque vous avez remporté également ce prix lors du dernier tremplin blues sur scène. Alors ça ne veut pas dire seulement un concert, seulement une date, hein. il y aura plein de choses. Je ne sais pas si on vous a déjà dévoilé ce que ça représente. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec des musiciens qui ont remporté ce prix du festi-blues?
Bah oui, on a eu l'occasion de discuter, surtout avec Jacques Noël, l'organisateur du festival.
Mmh.
Qui nous a dit que effectivement il y avait beaucoup d'événements autour de ça, c'est-à-dire que bon, il y avait effectivement le festi-blues, qui est un truc très important, et à côté il y a des télés, des tourneurs qui viennent, la possibilité de jouer dans des clubs en plus, etc. Donc pour nous ça va être quelque chose d'assez énorme et qu'il va falloir transformer. On a un essai à transformer, c'est-à-dire on a gagné au blues sur scène. Maintenant, faut qu'on prouve que c'est pas de la gnognotte et qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, quoi.
C'est excellent ça. Moi, rien que le fait de considérer que c'est pas une fin en soi, mais déjà un moyen et puis véritablement un tremplin, c'est comme ça que ça s'appelle, pour aller vers d'autres cieux. Vous avez tout à fait compris l'esprit, hein, du tremplin. En tout cas, moi, je suis bien content que vous ayez gagné. Ça n'enlève absolument rien au talent des autres, bien entendu. D'autant plus que cette année-là, j'étais pas dans le jury, donc je peux